Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous allons aller un peu plus loin sur la question du péché originel dont nous parlons depuis plusieurs rencontres. Mais il faut quand même essayer de regarder de plus près ce qu'on peut en dire, finalement, en quoi ça consiste, comment on le caractériserait. Je commencerai volontiers en faisant un lien avec ce que nous avons traité juste avant sur la puissance de Satan. Je me disais finalement dans cet échange que le drame de Satan, c'est peut-être ne pouvant pas être cause première du bien, de se faire cause première du mal. Peut-être que le péché, c'est d'ailleurs ça. À un moment, la cause première du bien, c'est Dieu. Et ne réussissant pas à assumer cela, à accepter cette dépendance de Dieu, mais qui est une dépendance heureuse et constructive, si je puis dire, voilà qu'on cherche là où on peut être cause première. Et effectivement, Dieu ne peut jamais être cause première du mal. C'est le seul lieu où le Satan, mais l'homme dans son péché l'est. Je ne sais pas si la manière de le dire est juste ou pas juste selon toi, mais il me semble que dans ce drame du Satan et dans ce qui va se jouer au péché originel, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui, il y a certainement une révolte par rapport au bien suprême et sentir que l'on est limité par rapport à ce bien suprême, qu'on n'est qu'un bien par rapport au bien absolu, est une épreuve d'humilité. Et c'est vrai qu'être relatif, c'est toujours une épreuve. Et vous vous souvenez, Sartre qui disait « La liberté, c'est l'étoffe de mon être ». Eh bien, on voit qu'il est à l'opposé de cette soumission par rapport à ses limites. Notre être jouit de liberté, mais il est bien antérieur au fait de... Nous avons bien des moments dans la vie où nous ne jouissons pas de cette liberté. Par exemple, nous dormons, nous faisons des tas d'actes végétatifs dans lesquels nous sommes pris par les nécessités de notre limite et notre liberté n'est pas particulièrement engagée. Donc nous sentons bien que la liberté ne peut pas être l'étoffe de notre être. Notre être est en amont. Il y a quelque chose qui nous est donné avec ses limites, qui fait que nous avons un corps à nourrir, à reposer, nous sommes pris par tout un ensemble végétatif qui fait que nous sommes limités. Notre liberté s'exprime dans les puissances hautes de notre être, avec notre volonté et notre intelligence qui peut s'engager dans telle et telle dimension. Mais nous sentons bien que notre nature humaine nous est donnée d'abord telle que. Elle nous est offerte par nos parents qui nous ont fait ainsi. Et nous avons d'abord à la vivre avant de sentir tout l'élan de notre liberté. La liberté, c'est poser un acte libre. Et avant qu'un petit enfant arrive à poser un acte libre, il faut du temps, il faut une éducation. Il faut donc reconnaître cette situation de l'homme qui n'est pas dans une liberté totale et qui est obligé d'assumer ses limites. De nos jours, nous avons deux courants que Benoît XVI a caractérisés dans son encyclique sur la charité, Caritas in Veritate, cette encyclique sociale. Et il dit qu'il y a une tentative de mécanisation de l'homme où il arriverait à se dépasser sans cesse dans ses limites. Et on pense de nos jours au transhumanisme, un certain transhumanisme qui essaye de se faire Dieu sans Dieu, hein, une espèce de force surhumaine qui nous ferait vivre toujours, dépasser toutes nos limites, etc. Et puis, d'un autre côté, une autre réaction qui ne respecte pas les lois de la création, comme dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 396, c'est la tentation de ravaler l'homme au niveau de tout ce qui est le vivant, aussi bien le dauphin que le singe ou que l'animal en autre, qu'on appelle la hard écologie, c'est-à-dire l'homme n'est plus qu'un vivant parmi les autres, il faut respecter tous les vivants et on ne voit plus la hiérarchie que Dieu a instituée dans sa création. Donc il y a des lois de la création, des normes morales qui règlent l'usage de la liberté. La liberté n'est pas un absolu. La liberté est prise dans cet ensemble de lois de la création et de normes morales objectives que Dieu nous a données pour que nous soyons heureux. Et si je refuse et cette hiérarchie des êtres et ces limites de mon corps et de mon... De ma nature humaine, je vais me casser la figure, je vais marcher en dehors de ce chemin qui me conduit finalement à rencontrer le Christ, le chemin, la vérité et la vie, et me conduire au Père et me conduire au bonheur éternel. C'est ça qu'il faut comprendre, cette absolutisation d'une liberté jusqu'à en faire une épreuve. On comprend très bien qu'il y ait eu une tentation dès l'origine du côté de la liberté à partir du moment où il n'y a pas cette acceptation des limites. Or, lorsque Dieu donne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, il y a cet arbre était une limite infranchissable, dit le catéchisme, que l'homme, en tant que créature, devait librement reconnaître et respecter avec confiance, pour se mettre finalement dans cette soumission libre et non pas aveugle, cette soumission consciente, il fallait cette épreuve. Sinon, il n'y aurait pas eu peut-être assez de liberté s'il n'y avait pas eu cette épreuve. Dieu n'est pas quelqu'un qui arbitrairement, autoritairement éprouve ses créatures, mais c'est qu'il veut qu'elles soient à son image et ressemblance. Et dans cette image et ressemblance, il y a la liberté. Si la liberté n'est pas assumée à bon escient, au bon endroit, eh bien, l'homme se casse la figure. Et le Concile Vatican II a rappelé cette situation d'un ordre moral objectif, par exemple dans Inter Mirifica ou dans la déclaration sur la liberté de l'homme, combien c'est important de connaître cet ordre moral objectif pour pouvoir être heureux. Et pouvoir être heureux, c'est choisir toujours le bien et y persévérer et éviter le mal.
Oui, je suis frappé finalement par, même si c'est tout simple, mais quand tu dis sans cette épreuve de l'arbre infranchissable, l'arbre qui donne une limite, celui dont on ne peut pas manger le fruit, sans cette épreuve, l'homme n'aurait pas eu assez de liberté. Il n'aurait pas assez pu faire l'expérience de choisir Dieu. C'est extrêmement important de resituer que ce péché des origines est dans cette difficulté de reconnaître la limite et peut-être plus encore de faire le choix. Et on ne fait le choix que quand on est face à des contraintes qui nous font désirer le bien et désirer le bien par là où il nous sera donné.
Oui, oui. Sans cette découverte de ce qui nous rend finalement semblable à Dieu, on ne peut pas devenir Dieu. On ne peut pas ce que dit, vous deviendrez comme Dieu, dit le diable à Ève, en Genèse chapitre 3, verset 5, eh bien, c'est quelque chose de faux si on ne prend pas les moyens de Dieu pour le devenir.
En fait, c'est un peu cette idée que au jardin des origines, à un moment, l'homme, l'être humain, fait l'expérience qu'il ne s'est pas créé lui-même et il fait l'expérience qu'il ne peut pas qu'il est fragile et qu'il ne pourra pas remédier lui-même à cette fragilité totalement. Et ça devient insupportable dans sa relation à Dieu. Il disjoncte.
Oui, il disjoncte. C'est-à-dire il préfère l'amour de soi à l'amour de Dieu. Et c'est ainsi d'ailleurs que définit le péché, comme saint Augustin le dit. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Alors que la vie éternelle, c'est l'amour de Dieu jusqu'au détachement de soi. Contentum sui, c'est peut-être excessif de dire qu'il faille se détester, si vous voulez, mais quand le grand Pascal dit qu'il faut se haïr soi-même, c'est dans ce sens-là, s'il faut se dépasser, se dépasser pour un autre, se dépasser pour Dieu. L'amour de Dieu jusqu'au dépassement de soi, je ne parle pas jusqu'au mépris au sens, vous voyez, d'être contre sa propre nature, mais au sens qu'il ne faut pas se préférer à quelque chose qui est plus grand que nous, qui est Dieu. Et donc, le péché, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. C'est une belle expression. Amor sui usque ad contentum Dei. Et c'est ce que dit le 398. L'homme était bien, effectivement, destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire, mais il a préféré prendre un chemin faux, un chemin d'amour de soi, plutôt que de dépassement de lui-même par amour de Dieu. Et c'est là que le péché s'est infiltré en quelque sorte. Il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu, et non pas selon Dieu, selon la belle expression de saint Maxime le Confesseur.
Quand tu dis l'amour de soi, il a préféré l'amour de soi à l'amour de Dieu. Donc il y a l'amour s'aimer lui-même plutôt qu'aimer Dieu, mais il y a aussi, dans l'autre sens, je me dis, il a préféré. Il n'a pas voulu prendre le risque d'en se remettre au fait que Dieu l'aimait, et il a cru que s'il s'aimait lui-même, au moins, il se contentait de ça, d'une certaine façon. Laisser Dieu nous aimer.
Oui, il a, visiblement, il a cru au piège qui s'était fabriqué devant lui avec l'astuce du malin, c'est de croire qu'il allait pouvoir s'emparer par lui-même du trésor qui était accessible et qui allait le contenter sans l'effort, finalement, de l'épreuve de la liberté, qui aurait été de dire non à la tentation et de se priver de cet arbre de la connaissance du bien et du mal pour avancer dans la liberté et pour finalement découvrir Dieu par un moyen d'effort, par un moyen d'exercice de sa liberté plénière. Alors, il a préféré une mauvaise liberté. Et ainsi, il est tombé dans les profondeurs du péché originel.
Merci, frère Édouard.